podcast.com. Essaye ça.
Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Andy Jacques, vous êtes présentement à l'écoute de Terrain Basique, le podcast sur Magic the Gathering, le plus québécois. Je suis flanqué d'Emmanuel, côté Séguin, comme à l'habitude. Comment ça va Emmanuel?
Ben écoute, ça va fébrile, on part aux aurores demain matin pour Chicago, ouais. On s'en va au MagicCon, on va aller vivre des aventures.
Ouais, puis on va parler de ça ce soir et aussi d'une petite chronique que Jonathan nous a fait. D'ailleurs, mais bonjour Jonathan Gauthier, comment ça va?
Ça va bien, on est un peu fatigué, mais ça va bien.
Puis c'est quoi qu'on entend en ce moment là, qui va nous accompagner tout le long?
Ben, je passais au Arcane Montréal récemment, puis moi j'ai toujours un petit faible pour les petites japonaises en habit sexy qui pètent des yoles à des monstres. Fait qu'on écoute Sailor Moon. C'est une air en beat them up. Puis le soundtrack, je l'aime bien. Puis je sais pas que c'est pas le. Je sais pas que c'est l'un des 10 meilleurs beat them up de ce temps-là. Mais avec une bonne bière et des amis, ça se prend très bien. Hein.
Ah, excellent. Donc, on va commencer ça. Ben, regarde, on va commencer. On avait déjà commencé à en parler. Chicago, demain matin. Qu'est-ce qu'on s'attend en fin de semaine? Parce qu'on va en parler en long et en large la semaine prochaine. Je pense que notre show de la semaine prochaine, ça va être justement notre retour. Mais vite de même, là, c'est à quoi qu'on s'attend? Là? Y a-tu quelque chose de surprenant qui va
passer? Ben là, c'est sûr qu'on va garder un œil sur le Pro Tour qui va se passer juste à côté. On a quelques petits événements de préparer. Réservé. On a le Mystery Event de Gavin Very qu'on avait fait à Philadelphie. Puis à chaque fois, là, j'ai toujours des excellents commentaires. Là, c'est toujours un espèce d'événement qui joue là, avec le Magic traditionnel et des expériences spéciales puis des cartes faites spécialement pour l'événement
et par en plus, un gars cet
qui
événement,
les cartes. Là.
Et en plus, cet événement-là est un événement bénéfice.
Oui, donc, tout à fait.
Tout l'argent qui, je pense, s'en va dans un bénéfice choisi par Gavin.
Oui, absolument. Puis sinon, ben, il y a le party le vendredi soir au House of Blues. On va jouer à Clou. On va peut-être chanter du petit karaoké. On s'est pogné un pod de Commander avec des decks de Doctor Who. Parce qu'on s'est dit
deux
qu'on allait sûrement en acheter un de toute façon.
C'est vrai.
Tant qu'à faire, ben, on va faire un événement puis on va jouer avec. Fait qu'on va avoir un deck random là, de Doctor Who qu'on va jouer. On s'échangera si jamais.
Okay.
Sinon, ben, il y a toutes sortes d'événements, des panels de toutes sortes. Là, j'ai regardé la liste, ils ont vraiment augmenté de beaucoup le nombre de panels depuis la dernière fois qu'on avait. Là, ben, il y a aussi des scènes puis des salles adjacentes où est-ce qu'il y a, en plus de la scène principale où est-ce qu'il y a les grosses affaires avec les previews puis tout ça, puis des shows spéciaux avec des personnalités de Magic. Il y a d'autres trucs un peu plus
qu'on va déjà commencer à parler de Thunder.
Oui, les premiers reveals de Thunder Junction sont prévus pour être justement en fin de semaine au preview panel.
Ben, j'espère parce que les détaillants ils ont reçu les notices pour commencer à commander leur stock.
Absolument. Puis il y a eu un petit leak des tops des boîtes de Commander deck.
Mais là, Karlov est même pas encore froid.
Andy, je pensais que tu étais rendu habitué. Là, c'est la saison des previews ne finit jamais.
Ever hype train.
Wow!
Parce que là, en plus, là, ils commencent à faire les reveals pour Fallout ce moment-là. Ça commence tranquillement, pas vite à sortir. On va avoir François Lompré qui va venir nous en parler plus en détail là, quand on va avoir plus de cartes à
si
se
je
mettre sous
m'abuse, ça va être probablement dans deux semaines. Et moi aussi, je suis un avid fan de Fallout, donc j'ai bien hâte d'avoir cette conversation-là avec François. Est-ce qu'on avait autre chose aussi en entrée de show? Je pense que Jonathan, t'avais quoi? Ah, mais c'est les spoilers de Secret Lair que finalement, il n'y avait pas...
Ouais, on va revenir plus tard là-dessus, je pense, après la carte de la semaine, faire un bon bridge. Fait que si vous n'avez rien contre, moi j'embarquerai sur mon petit sujet de la soirée.
Ben regarde, on pourrait aller tout de suite à la carte de la semaine. Ça va être un show bien bien court ce soir, c'est bien fun.
Parfait.
Fait qu'on va aller tout de suite à la carte de la semaine, puis après ça, on va concentrer tout le reste sur toi, Jonathan. Enfin, on va pouvoir entendre parler. Jonathan. La carte de la semaine, d'ailleurs, qui est une présentation de l'adversaire pub ludique au 4303 rue Sainte-Catherine-Est. Y a-t-il quelque chose qui se passe de spécial cette semaine, Emmanuel?
Écoute, on vient de lancer les shows d'humour que je vous parlais.
Oui.
La semaine passée, les dates sont sorties. Et sinon, écoute, on finit février, le mois sans alcool, là, puis ça va bien.
Ah oui, c'est vrai. Puis vous avez. L'offre est toujours présente, là, des alcools. Des alcools
oui,
sans alcool, des bières sans alcool.
Oui, on a des plusieurs choix de bières sans alcool, du kombucha en fût, toutes sortes d'options, des virgin cocktails, etc.
Des mock mocktails. Merci. Excellent. Donc, on va aller écouter le beat à bonde, puis on se retrouve ça à la carte de la semaine de l'autre côté. Restez avec nous. Excellent beat de bonde, toujours savoureux. Celui que je choisis de la carte de la semaine, c'est... je pense à Emmanuel et Jonathan en même temps. J'avoue que c'est une carte que je connais pas, donc allez-y donc.
Yes, c'est qu'ils ont commencé à révéler un Secret Lair. On savait que ça s'en venait. On en a parlé. Ben écoute, je vous ai laissé en parler en lisant mon document au show de fin d'année. L'année passée a marqué le départ de Sheldon Mannery, qui était une figure marquante là, de Magic et particulièrement de Commander. Puis ils sortent un deck, là, ça va être un Secret Lair, donc ça va être un deck avec toutes les cartes vont être avec des alt art là, puis tout inspiré là, un peu de Sheldon. Alors la carte de la semaine, c'est Sheldon de Commander. C'est un dans le fond un reskin de Ruan of the Fomori. Okay. C'est le Legendary Creature. C'était sorti dans un des sets là, de Commander. Puis c'est un Giant Warrior 7-7 qui coûte un colorless, un bleu, un rouge et un blanc. Au début de ton combat, surtout à ton tour, tu choisis un adversaire random et puis Sheldon de Commander attaque ce joueur, ce combat si possible. C'est une 7-7 pour 4, là, mais mais ça, c'est pour ça que ça swing à quelqu'un random. Là.
Mais c'est tout un honneur, ça.
Ouais, ben, j'aime un que ce soit un géant parmi les hommes.
Ouais, ouais.
Puis, je sais pas si vous avez écouté Galvin qui avait annoncé son élogie à son ami quand il a perdu son ami. Ouais. Puis il disait qu'une des mécaniques ou une des discussions qu'il avait eu en jouant Commander avec Sheldon, c'était que c'est une mécanique que personnellement moi j'aime pas, mais le monde n'assume pas leur choix en multiplayer de jouer un spell ou tu sais comme de oh je vais t'attaquer toi ou puis Sheldon qui disait comme non, on joue. Assume tes décisions, délègue pas au hasard ou à un des. Soit la personne et le joueur de Magic que tu peux être. Puis le supposément on l'écrivait aussi comme quelqu'un d'extrêmement intelligent que il incitait le monde à faire des choses qui étaient pas nécessairement confortables à faire, mais il était pas brusque ou sec. Il était. Il
convainquait doucement.
C'est ça, c'est. Il forçait un peu la main de façon à te montrer une perspective différente. Fait qu'en plus qu'il ait choisi une carte qui fit avec l'élogie qui a été faite en son honneur, je trouve que c'est un excellent choix de carte. Là.
C'était un gentle giant.
Oh ouais.
Voilà. Fait que c'est ça, fait qu'il y a quelques cartes là, on avait déjà vu le Ink Shield là, qui avait été reprinté avec sa face et puis
Teferi's Protection. C'est un bel honneur.
Ouais, ben c'est ça que c'est ils font pas ça si souvent que ça, surtout pas un gros deck de Commander juste pour.
Non, mais je pense que c'est
ça va de soi là, mais.
Oui.
Excellent.
Alors voilà, c'était ma suggestion pour cette semaine.
C'était ça. C'était court, c'était simple et c'était éloquent. Donc, on va aller retourner écouter du beat à bone, puis on se retrouve de l'autre côté. carte de la semaine et Beat a Bone Successful. Check. Jonathan, check. Jonathan, amène-nous dans ton merveilleux monde.
All right. Fait qu'on fait ça comment? Je prends le partage d'écran.
Oh oui, absolument. Puis...
All right. Fait que...
On suit.
Share. Fait que... Je sais pas si tu te souviens, là, le... En tout cas, moi, ça... on m'en a parlé beaucoup quand que Wizard avait commencé un peu à rebrander ou changer le vocabulaire qu'il utilisait à l'interne. Ouais. Et bien sûr, ça découle vers les cartes, le design, l'intérieur. Puis on le dit souvent en blague, là, mais que Tribal est en train d'être phasé out du vocabulaire à l'interne. Puis c'est rendu typal officiellement. Puis il y a des personnes qui ont pris ça hyper personnel parce que, tu sais, eux autres, il y avait toutes les cartes ever de Magic que c'est écrit Tribal dessus, puis c'était leur identité qui... Fait que... Puis là, je me suis dit, moi, en tant qu'infographiste, quelqu'un qui a travaillé sur des brands, puis qui a vu différents comme mentalités venant du leadership, puis comment que s'implanter, je me suis dit, ce serait peut-être le fun à regarder cette décision-là, pas nécessairement en tant que joueur de Magic, mais plus en tant que quelqu'un que sa job, c'est de vendre un brand à l'international, pas juste à New York ou à Montréal ou dans les petites boutiques à Plaza Saint-Hubert. Puis, bon, c'est ça, là, c'est sûr qu'ils ont continué. Ils avaient commencé, on disait, avec Tribal, puis là, après ça, ils ont continué puis avec sur Arena, Cans of Tarkir.
Ouais, quand ils ont fait la réédition, là. Ouais. La ressortie sur Arena, ils ont changé quelques petits trucs.
Puis c'est ça, principalement les cartes. Il y a des cartes que ils ont enlevé le mot chat. Soudainement, les c'est quoi? C'est Rakshasa Death Dealer, Rakshasa Debaser, Rakshasa Gravecaller.
Ouais.
Bref.
Mais toutes les cartes qui étaient des rats de chasseurs, leur creature type, c'était 4.
Ouais.
Il y a toute une histoire avec ça. Là. Ça date d'une vieille affaire de Donjons et Dragons, une vieille. Non, mais c'est une vieille interprétation.
Ouais, t'as raison.
Gary Gygax qui avait commis des rakshasas dans son affaire, puis que c'était des.
C'était
des espèces de hommes-chats, mais tu sais, c'était inspiré de la mythologie indienne, mais ça avait rien à voir avec les rakshasas dans la mythologie indienne.
Non, c'est ça.
C'est comme une espèce de bâtardisation de cette culture-là. C'est un peu en réponse là, à ce.
C'est
à
ça. Ce, mais si on la regarde, là, j'ai fait un petit montage visuellement. Ouais. Sont toujours sur les cartes, sont toujours représentés comme étant des chats. Puis généralement, de façon un peu féroce et méchante. Dans les faits, comme tu le disais, oui, c'est sûr que dans Dungeons & Dragons, genre, ils sont allés chercher des ifrites de plein de mythologies différentes, plein de mythos différentes, puis ils se sont appropriés, puis c'est un excellent jeu. C'est juste, ben, à cette heure, on est dans une nouvelle ère, puis on se ramasse que ce qui a découlé, je sais pas si vous voyez les 6 images que je présente, c'est toutes des choses, ils ont tous l'air méchants puis vicieux, puis dans les fesses, c'est des shapeshifters, fait que... Mané, mettez un éléphant dans la bunch qui est gentil, tu sais. Fait que...
Ou changer le nom de Rakshasa.
Ouais, ben ça c'est l'autre affaire, c'est que je pense qui est un excellent move de Wizard, c'est que... tout qui... C'est un peu comme Planeswalker. T'entends Planeswalker, tu sais qu'on est en train de parler à Magic. Fait que juste changer certains vocabulaires, certains mots, ça fait que ça renforcit le mythos, le lore, leur branding. Que quand quelqu'un en parle, tu sais que, tu sais, c'est pas... Tu sais, quelqu'un qui parle de Merfolk, tu sais qu'il est pas en train de parler d'un film de Studio Ghibli. Là. C'est,
oh, il parle pas d'une sirène. Là, fait que...
Ouais, c'est ça. Là. Fait que moi, je sais, il y a déjà quelques mots qui, puis quand il avait introduit présenté les Planeswalker, puis qu'il y avait justement, on a beau détester Jace, mais il avait déjà commencé à créer une identité de qui est propre au branding de Wizard of the Coast. Puis moi, je fais juste voir présenter ça, je le vois comme une continuation de ça, de les choses qui venaient d'ailleurs, puis qu'en plus touchaient à des thèmes religieux. pense qu'à moyen terme ça, ou à long terme, c'est un investissement dans le bon sens en termes de branding.
Puis on s'entend-tu que ce besoin-là est arrivé aussi avec la réutilisation de vieux IP qui ramènent au goût du jour, qui remasterisent ou qui ramènent là, en retournant visiter quelque chose, puis on fait « Ah, t'as peu, ça a été créé il y a 20 ans, on s'en foutait dans ce temps-là que c'est un rakshasha, c'est pas une entité, ouais. C'est plutôt un chat. » Que là, aujourd'hui, on fait « Ah ouais, si on va aller la revisiter, va falloir qu'on fasse des devoirs. »
Réactualiser un peu.
C'est ça. Il faut qu'on fasse des devoirs un peu. Là.
Ben, tu sais, c'est ce que je présente, l'autre image, c'est un naga. C'est un animal mythique qui est présenté comme d'un peu partout. Là, genre, moi, j'adore les vieux films de Harryhausen en stop motion. Je trouve ça le fun à regarder. Mais je regardais, puis une créature naga avec un corps de serpent les plus populaires, les plus puissantes, c'est genre, elle agit physiquement comme étant un protecteur de Bouddha. C'est une entité puissante qui mérite le respect et notre admiration. Encore une fois, la plupart des nagas dans Magic et ben.
Et dans plein d'autres affaires aussi.
Dans plein d'autres affaires, c'est généralement un vilain caractère. Puis en plus, ouais, Nicole Bolas, il est hot, ok? Genre, comme on s'entend, c'est une figure emblématique qui est capable de foutre la merde.
C'est un bon pas fin.
C'est un bon pas fin. Mais avoir comme quelque chose que dans une religion comme le bouddhisme, c'est une entité qui mérite ton respect, s'incliner devant Bolas. Quand tu arrives pour vendre tes cartes à l'international, tu veux peut-être changer une chose ou deux dans tes lignes de texte.
Ben, y avait-tu une demande de ça? Parce que personnellement, je suis absolument pas contre ça. Est-ce qu'il y avait une demande? T'sais? Parce que souvent, on se rend compte que.
Oui. Oui, Andy. Ouais.
Il y en avait une? OK.
Ouais.
Les deux aspects de ce que j'entends souvent, c'est que entre les juges ou entre les lignes, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup de communication interne, puis c'est oui, il y avait une demande. Est-ce que la demande venait des RH?
Des bonnes sources, là aussi. Là,
ouais, est-ce que c'est les RH qui disent que. Comme qui font des. Qui engagent souvent des firmes externes, puis ils disent garde, dans vos communications, vu là ce qu'on vous suggère d'enlever ou de remplacer comme mot pour avoir un environnement de travail plus inclusif. Puis l'autre aspect, c'est moi, l'aspect que j'étudie plus, c'est vraiment le marketing de si t'es pas obligé de le faire, tu sais, comme mets-toi, si tu veux vendre puis percer puis aller dans le ratisser le plus large possible, parle pas de religion de politique sur ton jeu de cartes de Magic. C'est un des rares épisodes de South Park qui sont plus capables de faire jouer, c'est les Super Friends. Celui-là où Jésus recrute Mohamed puis toute la gang.
Mais en même temps, ils s'en sont servis comme d'arc narratif plus tard là aussi.
Ça c'est. South Park, on s'entend que
c'est leur objectif là. C'est leur objectif d'être cinglant et de parler de politique et de religion et de tout ça, alors que là on parle d'un jeu.
Oui, on n'est pas dans le même endroit là, exact, c'est ça.
C'est ça. Puis, tu sais, parlant de branding, je me suis dit, on va. Plus gros brand à l'international, je pense qu'on peut s'entendre, Marvel, Disney.
C'est pas mal d'un top.
C'est pas mal d'un top. Je dis pas que tout le monde devrait s'agenouiller et dire comme « Wow, c'est les meilleurs produits de consommation ever ». Je fais juste dire en termes de si tu veux vendre un produit, tu peux étudier le numéro 1. Puis je vais retourner dans le passé, puis c'est un éditeur en chef qui a travaillé pour bien des grosses compagnies de comic book, incluant DC puis Marvel. Mais quand il s'était ramassé chez Marvel, il a antagonisé vraiment, vraiment beaucoup de personnes, autant du leadership de chez Marvel, parce qu'il poussait pour avoir des meilleures conditions de travail ou des meilleurs contrats de travail pour ses pigistes et ses employés artistes. Puis en même temps, il imposait beaucoup de contenu éditorial de sa propre vision de ce que devrait être le branding de Marvel à l'époque, sans nécessairement en parler aux créateurs. Souvent, les deadlines étaient super tight. Fait que, il y avait le texte devant lui. Il fallait que, dans une heure, il fallait que ça soit chez l'imprimeur. Puis, il effaçait, puis il remplaçait des mots pour que ça soit, pour que ça soit à son goût. Puis, garder un des personnages emblématiques à cette heure aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est Mephisto. Qui est ils ont pris le personnage Mephistopheles, ils ont enlevé 2-3 syllabes, à cette heure, c'est Mephisto. Avant Jim Shooter, il pouvait parler de Satan. C'était littéralement un comic comme super populaire de Ghost Rider. Ghost Rider dealait avec Satan directement. Puis une des conclusions du premier story arc populaire de Ghost Rider, c'est quand il a sa rédemption, puis que le tout est réglé, sa quête du héros est terminée. T'as littéralement Jésus qui est là pour dire « Tout est chill, bro. » C'est juste que Jim Shooter, il a remplacé Jésus pour « A good friend ».
Ouais.
Jésus, l'original super-héros.
Ouais, tu peux pas être plus puissant que ce gars-là, je veux dire.
Ouais, mais en même temps, je veux dire, ça enlève pas le symbolisme en arrière de ça. Parce que même si tu as changé « I am Jesus » à « I am a friend », en bas, t'as quand même le symbole that is and turn enough. Là, tu sais, c'est que c'est. Tu laisses au lecteur décider de ce que c'est, tu sais, au bout de la ligne. Là, tu sais.
Ouais. Puis c'est ça, c'est. Puis, le c'est ça, il y avait une des affaires qu'on chialait beaucoup à l'époque. C'est que sa ligne directionnelle, c'était justement d'enlever toutes les affaires qui pourraient être litigieuses. Il voulait juste pas avoir des angry letters de qu'est-ce que mon fils lit. Il voulait vraiment.
Assainir, merci.
Dans le fond, c'est...
Aseptiser, peut-être.
Ouais, tu sais, je suis un fan de musique punk, puis Henry Rollin ne sacrera jamais en entrevue publique, ou même dans ses présences, je suis allé le voir comme faire ses stand-up. Puis la raison, c'est qu'il dit, même s'il va sacrer comme un sailor dans la vie privée, il ne veut pas que quelqu'un trouve... se servent d'un seul mot qui est mentionné dans son monologue pour discréditer le restant de sa phrase. Fait que quand ta job, c'est d'aller dans un plus grand nombre de points de vente possible, ben c'était peut-être une bonne idée d'assainir ton branding de cette façon-là. Puis l'autre vision que j'ai trouvé que Jim Shooter imposait à son équipe créative, puis je pense que Hasbro essaye de faire la même affaire ou Wizard of the Coast essaye de faire la même affaire, c'est de prendre toute leur propriété intellectuelle, puis on l'a vu, mettons, avec quand ils ont essayé un peu maladroitement de rapprocher Dungeons & Dragons puis Magic the Gathering. Ça, c'était relativement bien réussi quand ils ont essayé avec... quand ça s'appelle les Transformers, on s'entend que ça, tout le monde s'en sont balancés. Mais Jim Shooter, ce que lui faisait, c'est que ça a été un des premiers dans le monde de la bande dessinée de faire comme, OK, on va créer plein de titres indépendants, puis une fois que tes titres indépendants ou tes franchises indépendantes sont établies, tu fais un gros big event qui réunit tous ensemble.
Oh yeah, le gros méga...
Ouais, puis Dieu sait quand...
Crossover.
Ouais, le gros méga crossover, un des premier méga crossover que moi je connais, c'est Secret Wars. Mm-hmm. En plus, au moment où c'est qu'on révèle qu'on présente le costume noir de Spider-Man. Mm-hmm. Ça a été big, ça a changé la façon qu'on vend de la bande dessinée. Puis je pense qu'on peut même dire que plusieurs années plus tard, ça l'a influencé la façon qu'on...
Mais là, tu mets Secret Wars, mais tu sais, c'est Endgame, puis...
C'est juste que ça, c'était un des premiers, là.
Ouais.
Ouais.
Mais oui.
Puis même si ça a été un film, Civil War était un autre de ces ends, de ces moments. Il y a un terme pour ça, là, mais tu sais, des...
Des major events, là.
Ouais, genre, ouais. Puis, des nexus d'histoire qui...
Ouais. Maintenant, pendant un bout, on parlait en bande dessinée de Big Event Fatigue. Puis la réponse de l'éditeur en chef, je pense que c'était, je me souviens plus, c'était Joe, quelque chose, genre son blog, c'était Cup of Joe, fait que je me souviens plus son nom de famille. Puis il disait comme, OK, t'as peut-être raison que les ventes sont plus aussi grandes que, mettons, Infinity War ou quoi que ce soit. C'est juste que factuellement, quand on check les ventes puis les commandes qu'on reçoit, ces livres-là, puis même je pense que c'est la même affaire avec Avengers au cinéma, vont vendre jusqu'à 3 à 10 fois plus de billets que. Fait que quand on me demande, quand j'ai vu ça, qu'on parlait de peut-être enlever Priest ou Shaman, puis.
Witch.
Ouais, c'est comme. Mané, tu fais comme, ouais, mon jeu, genre, c'est plus. Je commence à être. Il change tellement que c'est plus ce que je connaissais auparavant. Moi, je pense que c'est vraiment d'un point de vue de vente, d'un point de vue de branding, Wizard se donne les outils pour que justement, au mieux que ça soit des monstres génériques qu'ils ont emprunté d'un peu partout, que ça soit leur propre univers.
Leur propre IP, leur propre invention, leur propre nomenclature.
Leur Oromancer.
Exactement. Fait que si. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont parler de l'inclusivité puis prendre le côté politique. Peut-être que c'est là. Je trouve que c'est un côté médias sociaux, dire qu'ils font ça pour l'inclusivité, c'est pas une mauvaise chose. Moi, l'angle que je vous ai présenté, c'est plus, capitaliste, branding. Puis c'est ce que j'avais à dire sur le changement de nomenclature de Wizard of the Coast.
Ouais, puis c'est sûr, ça a entraîné toutes sortes de débats, là, évidemment. Oui,
Pas tout être le fun à suivre, là. Je veux dire, il vient qu'à un moment donné, ça reste que c'est un IP, puis c'est un IP qui appartient à quelqu'un, puis si t'as quelqu'un-là, il peut faire ce qu'il veut avec son IP, au bout de la ligne, là. Fait que s'il décide de faire ça, ben il décide de faire ça. Ton deck de cleric, ben je suis désolé, il est rendu un deck dealer. Life sucks. Puis ça changera rien dans... 2 ans, personne ne va en parler. Ton combat, c'est une tempête dans un verre d'eau momentané. Là,
le monde chialait quand ils ont changé Mana Cost par Mana Value, puis plus personne qui en parle, puis c'est écrit Mana Value sur les cartes, puis le monde
le dit Mana Burn, Value. Là. Le Mana Burn, lui! Excellent. Donc, c'était tout?
Ah oui, c'était tout. C'était simple et court, puis... On est un podcast de Magic, je pourrais parler de Marvel encore puis de branding pendant des heures. Mais...
On fera ça dans un podcast à part.
quand il y aura les Universes Beyond de Marvel.
Oui, voilà. Ouais. Ben voilà une belle occasion. Excellent. Donc, merci. Ça aurait été j'ai de la misère avec mes mots à ça.
Dire un mot.
Voilà. Ah, oui, en courté, mais c'est pas un bon mot, ça existe pas.
Ça a été succinct.
Ça a été très succinct. Écoute, Jonathan, merci beaucoup d'avoir meublé cette demi-heure.
Merci.
C'est quoi qu'on écoute en ce moment, Jonathan?
Ah, on écoute Sailor Moon, l'excellent beat'em up, version Super Nintendo, si je me souviens bien.
Ah, OK. Le pire, c'est que j'avais oublié de te poser la question précédemment. J'aime ça quand tu parles de jeux vidéo, de nous dire où est-ce qu'on peut trouver le jeu en question.
Cela va être rough à trouver de façon officielle.
Légale. De façon que tu aies la cassette pour enlever le ROM pour pouvoir l'utiliser par la suite.
Oh, ouais.
Emmanuel, on se revoit dans à peu près 8 heures.
Je vais aller finir mes valises.
Excellent. Sinon, regarde, on a bien hâte de vous parler de ça la semaine prochaine, de ce qui va se passer en fin de semaine. Mon nom est Andy Jacques. Vous avez écouté Terrain Basique, qui a été une présentation de l'adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Profitez, il reste encore quoi? À peu près 9 jours, parce qu'on a une journée de plus. Il reste 9 jours pour profiter de tout ce qui est sans alcool, les mocktails, la bière sans alcool et le kombucha.
Et depuis quelques temps, avec votre facture de la soirée, vous obtenez 10% de rabais en boutique. Alors, si vous essayez un jeu que vous aimez, que vous voulez acheter, ben vous avez déjà un 10% de rabais parce que vous avez pris une bière en plus.
Ça serait fou de ne pas profiter de ça.
Chaque fois que je vois à l'adversaire acheter un jeu, ça vient qu'une bière gratuite.
C'est-tu vrai, ça?
Non.
ça aurait pu, là, je veux dire. Ça dépend où la valeur la plus haute de profit entre les deux. Là.
On s'en reparle.
Excellent. Sinon, ben, vous avez aussi, on va remercier Bone pour son beat. On va remercier Martin Godette pour le montage. Jason Keys pour le visuel que vous allez avoir sur YouTube un peu plus tard. Mon nom est Andy Jacques, je l'ai dit, je pense tantôt. Vous avez écouté Terrain Basique, le podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. Bonne journée/soirée, tout le monde.